C'est la première fois que je suis dans cette salle. Aujourd'hui, je suis ravi d'être à la station Ozone pour vous parler de La mer à tout son temps, mon quatrième roman, publié, comme les trois premiers, chez Vent Salé. Je vais être martyrisé par Frédéric Picard, rédacteur en chef du Figaro, une sorte de tueur de l'interview. Sa prochaine victime, d'après ce que je sais, est Franz-Olivier Gisbert. C'est vous dire que le type est affûté. Voilà, donc Fred, je suis entre vos mains.
Alors allons-y. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être à Bordeaux déjà, très heureux d'être parmi vous, et puis surtout pour parler d'un livre, le quatrième, comme Bernard Cazobon vient de le dire, son quatrième ouvrage. Outre le fait de présenter le livre et d'essayer de rencontrer, de discuter un peu avec l'auteur, poser des questions pas toujours simples, c'est surtout et avant tout, c'est que c'est un ami. J'ai eu le plaisir de lire ce livre qui est assez remarquable. J'aime le ton, j'en ai parlé dans le Figaro. Faut le lire. Et donc, j'ai préparé une petite rencontre avec l'auteur en trois parties. Et vous allez voir, à chaque fois, j'ai demandé à Bernard, parce qu'il a cette voix qui est quand même assez exceptionnelle, quand même de nous lire à chaque fois un petit bout de ce livre pour nous donner la senteur. Et pour commencer, comme à chaque fois, je le fais, comme Bernard vient de le dire, cette semaine, je rencontre Franz-Olivier Gisbert dans une émission pour Le Figaro, et à chaque fois, je fais un portrait avec des mots, puisque j'aime jouer avec les mots, puisque c'est ma nature. Donc, il était tout naturel que je fasse un portrait de mon ami Bernard Cazobon. C'est assez court, mais c'est très personnel, et je voulais que nous le partagions ensemble. Bernard Cazobon est un séducteur. Pierre Cazobon est un obsédé textuel. Sa langue est son arme. Bernard, c'est un baveux qui sait écrire. Cazobon, c'est un écrivain qui sait parler. Une envolée de Cazobon, c'est un défilé de lingerie fine. Pas de langue cossarde, pas de lieu commun en haillon, pas de grosses culottes en coton. Non, Cazobon aime la langue en cuissarde. Celle qui fait découvrir les mots en déshabillés vaporeux, les verbes en dentelle, les adjectifs en body. Avec Bernard, les alexandrins glissent leurs pieds dans des bas nylons. Avec Cazobon, on ne badine pas sa baratine. Surtout après quelques vers bien sonnés. Lire ou écouter Cazobon, c'est surprendre les consonnes et les voyelles s'envoyer en l'air. Les parenthèses et les guillemets s'ouvrent, les mots se découvrent, les cédilles s'apostrophent. Le verbe s'érige, au diable le cache-texte. Les métaphores se dénudent, les apocopes font sauter leur porte-jartelle, les homonymes font leur coming-out, ça calembourre, ça contrepète dans la soie. Bernard Cazobon aime faire valser sa grammaire le long des strophes claires. Bernard Cazobon, c'est la Joconde de la Faconde, le Caravage de l'abattage, la Belgance de l'éloquence. On aime le lire, on va maintenant l'écouter. Cher Bernard, première partie, ce que j'ai appelé fiche d'identité pour mieux te connaître et connaître à la fois tes personnages.
Je crains le pire.
On va assez vite, comme ça c'est simple. Quel est ton prénom, ta date et ton lieu de naissance ?
En ce qui concerne ma date de naissance, j'ai beaucoup trop d'admiratrices pour la révéler ici.
Quel est ton groupe sanguin et ton signe astrologique ?
J'ai un autre prénom, c'est Adrien.
Adrien.
Adrien, qui est le prénom de mon parrain, Adrien Bayonne, Chevillard, un des princes des abattoirs de Bordeaux de la Belle Époque. C'est lui qui m'a appris le langage des abattoirs, le langage de la rue, qui m'a souvent sauvé dans beaucoup de circonstances.
Bon, nous, on va rester à Bernard.
Voilà.
Okay. Quel est ton groupe sanguin et ton signe astrologique ?
Balance, le signe. Comme la justice, c'est pas fatalement un signe d'équilibre forcené. Le groupe sanguin, comme mon père, comme ma mère, pyrénéen, basque, au négatif. 5% de la population à peu près, donneur universel.
J'ai bien fait de dire on fait court parce que là on n'est pas parti. Quelle est ta plus grande qualité ? Et ton plus grand défaut ?
Je crois que je suis tolérant. Et mon plus grand défaut, c'est d'être, comme le titre de mon roman, comme la mère. J'ai toujours tout mon temps.
Qui t'a inspiré pour tes personnages ?
Mes amours, mes passions, mes regrets, mes souffrances, ma jeunesse.
Ça ferait une chanson.
Ma vie, quoi.
Alors, il y a trois personnages principaux dans ce quatrième roman. Marilyn, la commissaire de police, Fan, la chinoise, et Casanova, l'avocat. Marilyn et Fan sont réalité ou fiction ? C'est deux femmes.
Fantasme.
Fantasme. On comprend. Pourquoi ces prénoms, Marilyn et Fan ?
Alors, il m'a fallu trouver un prénom pour la chinoise. J'ai consulté. Fan, c'est le prénom des Chinoises intelligentes. En tout cas, c'est ce que l'on dit. Et c'est une sorte de fleur, Fan, un peu vénéneuse. Quant à Marilyn, Marilyn, c'est la bombe de ma jeunesse. C'est celle qui a les jupes qui se relèvent sur la bouche de métro. Ça, c'est une vision magnifique.
Donc, dans ce livre, que tout le monde sache bien, dans ce livre, on parle de code d'honneur, puisqu'il y a une histoire avec une triade, quand même, qui est la base. As-tu, toi, une devise ?
Oui, j'ai une devise. Elle est inscrite sur le maquila que m'a offert Philippe Moulia, patron des phages. Cette devise, c'est « En la vida, todo se torea ». Ça veut dire que, comme le matador travaille un taureau difficile, est obligé de trouver des solutions à tout, tout ce que l'on fait dans la vie se torée. Les soucis, les emmerdes, les femmes, les adversaires, les amis. Je crois que c'est une belle devise. Mais sur le maquillage, l'inscription est toujours en basque. Ça perd un peu de sa saveur, c'est mieux en espagnol.
Et tu le dis bien. Alors, tout au long de ce roman, « il » au pluriel se cache, et on ne va rien dévoiler. Est-ce que pour toi, est-ce que tu penses que pour vivre heureux, il faut vivre caché ?
Oui, absolument caché. C'est... Il faut se méfier de son ombre. Comme dit le sage Tao Li Fu, pose une pierre sur ton ombre et pars en courant.
Tu peux la refaire ?
Pose une pierre sur ton ombre et pars en courant.
Joli. Est-ce que tu penses que bien mal acquis ne profite jamais ?
Ben, y a beaucoup d'hommes et de femmes qui m'ont démontré le contraire.
Alors, on en a parlé brièvement, mais il faut le savoir, ce livre, s'il y a beaucoup de séduction et beaucoup de moments assez intenses. Quelle est la première pensée que tu as quand tu croises une femme séduisante ?
Je vais vous étonner. C'est comme le titre d'un roman, je pense... Pourquoi viens-tu si tard ?
Et là, non. Quel est ton genre de femme idéale ?
Petite femme, jolies jambes, avocate, qui habite rue du Colisée.
Je vous avais dit que ce ne serait pas facile, facile. Tu préfères séduire ou être séduit ?
Je ne suis pas très osé. Je n'ai jamais été un séducteur. J'ai dû manquer beaucoup d'occasions dans ma vie. Je suis assez peureux sur ces choses. J'ai souvent été séduit, mais j'ai rarement pris l'initiative.
Quelle femme célèbre aurais-tu aimé séduire, par contre ? Trois. Déjà, trois, c'est pas mal.
Des femmes de cinéma.
Ouais.
Joan Crawford dans Johnny Guitar. Lauren Bacall dans Quai Largo. Rita Hayworth dans Gilda. Voilà. et peut-être Gennaro Lanz dans Gloria.
Oui, c'est vrai que ça manquait quand même au palmarès. Qu'as-tu de plus sexy ?
Un brin de folie, peut-être.
Tu l'as bien. Alors, on vient de dresser le portrait donc, de l'auteur. On en sait un peu plus sur toi, sur quelques personnages. Pourrais-tu, à la fin de cette première partie, nous lire un passage de ton livre ?
Alors ?
Et pourquoi ? Pourquoi ce premier passage ? Plutôt sur l'homme, la séduction, un de tes personnages ?
Et je vais vous lire le passage qui présente un personnage central, qui est la chinoise
Fan.
Mmh. Mon héros se trouve embringué, pour dire un mot commode, dans une partie de poker, le plus dur des pokers.
Exceptionnelle partie, il faut le dire, c'est très très
une
bien détaillé.
Une partie qui est importante dans le roman,
ouais.
Et qui a de grandes conséquences. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Fan. Il l'a déjà vu une fois,
ouais.
Mais une occasion fugace. En tout, dans la grande salle au plafond travaillé, en comptant les batestis, le personnel en veste blanche et les joueurs, 12 personnes, dont une femme. Une femme énigmatique et silencieuse. Fan, longue et sublime chinoise de Taïwan. Elle veille au confort de son maître Wong avec une dévotion révoltante, dont le plus pourri des caïds de Hong Kong se délecte. Jean-Baptiste n'en revient pas. Il imagine la tête des féministes distinguées, des bonnes chiennes de garde, informées par un corbeau qu'un gros Chinois, descendu au Ritz, avec sa fortune volée, ses combines enchevêtrées, ses réseaux de prostitution, de drogue, sa férocité et son ventre de Bouddha, possède une esclave. Car l'histoire de cette beauté t'a coupé le souffle. Ange Battesti l'a narré en petit comité. Le père de Fan, chef d'une triade de Taïwan, contraint de déposer les armes au pied d'un patriarche de la mafia de Formose, avait vendu symboliquement sa fille à son vainqueur. Fan avait été dressé dans le cliquetis des percuteurs et la violence des sports de combat. Elle avait reçu l'enseignement prodigué par les femmes du clan, servir et obéir sans un mot, être la propriété du maître, quel qu'il soit. Veiller sur lui, tenir sa maison, diriger ses expéditions punitives, faire respecter sa loi et assouvir ses désirs, quel qu'il soit. Comme tous les esclaves vendus dans ce monde étranger au nôtre, son honneur consistait à être dévoué corps et âme. À l'âge de 28 ans, Fan, dont la violence et la virtuosité faisaient l'admiration des clans et des familles mafieuses, avait été rachetée par Wong à prix d'or. Elle avait été la contrepartie finale d'une interminable tractation, la condition définitive pour sceller une paix des braves, le solde de tout compte d'un trafic de drogue sanglant. Elle a rejoint la troupe des reîtres qui servent l'immonde hongkongais depuis plusieurs années. Cette femme fascine les joueurs. Tous restent muets lorsque Fan se déplace dans le salon surchauffé. Sa démarche de reine, sa courte robe noire à dos nus sont à mourir. Tout est parfait des chevilles à la nuque. Une indescriptible asiatique démoniaque comme celle de Kill Bill, une tueuse à chignon de jet, portant sur elle la mort et l'érection, une ombre dans une fresque de Quentin Tarantino. Elle a examiné dans le détail les présents sans jamais paraître porter son regard sur un seul d'entre eux. Elle a jaugé leur fortune, leur courage et leurs vices. Elle a évalué les risques que chaque joueur peut représenter pour son seigneur. On ressent d'instinct le don pour l'analyse chez cette femme qui peut, sur ordre, sourire, séduire ou tuer.
Alors, je tiens à préciser que j'ai la chance de rencontrer beaucoup d'auteurs, de journalistes, et c'est extrêmement rare quand un auteur lit des passages de son livre. Donc, profitez, parce qu'avec de sa voix de ténor, et c'est toujours très agréable d'entendre quelqu'un qui a écrit ce livre, vous le lire et vous le partager. Donc, merci Bernard, et on en fera un petit mot tout à l'heure. Alors, deuxième partie, la partie littérature pour mieux te connaître, pour savoir ce qui t'a inspiré, puis qui tu es. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire et quand ?
J'écris comme je parle comme j'écris, j'écris depuis tout petit, je parle depuis tout petit, personne ne peut m'arrêter, c'est une véritable furie. J'ai écrit des romans sur le tard parce que j'ai jamais eu le temps avant.
D'accord. Quel est ton auteur favori ?
Mon auteur favori, c'est Sébastien Japrisot.
Ah oui.
Sébastien Japrisot, c'est l'auteur de Compartiment Tueur, de La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil, du Passager de la pluie, d'Un long dimanche de fiançailles, et surtout de L'été meurtrier. C'est un virtuose, c'est un scénariste littéraire exceptionnel.
Quel ouvrage tu as lu récemment ?
Alors là, je vais vous faire rire. Le dernier ouvrage que j'ai lu s'appelle « Arrête ton char, Ben-Hur ». C'est un série noire des années 57 ou 8, écrit par Ange Bastiani, qui était un voyou. Et je me suis beaucoup amusé à lire ce bouquin, qui est une daube, hein, une daube de l'époque, mais qui est sociologiquement très intéressant sur la condition féminine de cette époque d'après-guerre. J'ai lu que les journalistes...
Vas-y.
Qu'on connaît, hein ?
Profite.
Se sont précipités sur le roman écrit par le Premier ministre, Édouard Philippe. Et certains en ont conclu qu'il donnait dans ses ouvrages une image dégradée de la femme. J'ai pas lu, je vais voir, je demande qu'à voir. Mais je vous renvoie à Ange Bastiani et à Arrête ton char, Ben-Hur, et vous verrez ce que c'est qu'une image dégradée de la femme.
Quel chef-d'œuvre aurais-tu aimé signer, par contre ?
J'aurais aimé écrire, outre L'été meurtrier, la trilogie de John le Carré, La Top, Comme un collégien et Les gens de Smiley. J'aurais adoré ça. J'aurais adoré écrire ça.
Tu parles des policiers, tu les écris bien, des romans policiers, des thrillers. Qui tu classes dans ton panthéon ?
Alors, dans mon panthéon, j'ai deux ouvrages traduits par Marcel Duhamel, qui nous a quittés et qui était un pur génie. Il y a 1275 âmes de Jim Thompson, qui a été porté à l'écran sous le titre de Coup de torchon. Et il y a Fantasia chez les Ploucs de Charles Williams. Ouais. Je parle d'ailleurs de 1275 âmes dans La mer à tout son temps, en reprenant une réflexion qui traduit le désarroi de mon héros, une réflexion de Nick Corey, qui est le shérif en chef du canton de Potts, Texas profond, ouais, qui dit « J'ai réfléchi et j'ai re-réfléchi, j'ai pensé et repensé, et finalement j'ai pris une décision, j'ai décidé que je savais foutrement pas ce qu'il fallait faire. »
Revenons, puisque tu en parles, à la mer à tout son temps. Comment est née l'intrigue de ce roman ?
Et l'intrigue est ancienne. Enfin, je l'ai découvert, je l'ai gardé en moi depuis longtemps. C'est une partie de poker.
Déjà ?
Oui, j'avais 19 ou 20 ans. J'étais en vacances chez mon ami Poisson au bord de la Lugue, au Cap Ferret. Et j'avais passé une grande partie de ma jeunesse à jouer au poker avec des professeurs professionnels des Arabes, les célèbres Mohamed et Kelaf qui m'ont appris le grec et le latin au poker. Et ce jour-là, on s'est trouvé dans cette ville-là, au bord de la lagune, dans une partie de poker avec des gens très riches, qui avaient un laboratoire pharmaceutique planétaire, des gens qui jouaient à Paris avec le baron Ampin, avec Yves Montand. Et moi, je jouais l'argent des copains. Donc on avait fait
une cagnotte,
un collectif, une cagnotte, un kolkhoz. Et ils étaient tous derrière moi à se ronger les ongles. Je jouais leur argent de poche. Et puis, ça marchait bien, on montait le tapis, et on était vraiment dans la cour des grands. Et j'ai eu sur un pot énorme 4 as servis, ce qui est absolument inimaginable. Et j'ai dit parole au lieu de jouer le coup. J'ai rendu mes copains malades, ils sont tombés évanouis, et finalement, ça s'est bien passé parce que quelqu'un a relancé, et on a fauché le laboratoire.
C'est dingue.
Ouais, on a fauché le laboratoire, on a fini au rancho, chez le shérif, au bout de l'avenue de l'océan, et on a offert une tournée générale. Il y avait 200 personnes.
Alors donc, c'est né vraiment...
Cette intrigue est la base de mon livre.
Au Cap Ferret.
Par contre, le gain n'est pas le même,
oui,
comme on le sait.
Est-ce que tu as des rituels d'écriture ?
Non.
Par exemple, ce roman...
J'en parle souvent avec les copains, auteurs. Je peux écrire partout, n'importe où, n'importe comment, n'importe quelle heure. Je n'ai pas de rituel.
Parlons des mots. Quels sont tes 2 mots préférés ? Deux.
Douce France.
Joli, pourquoi ?
La Corse, la Bretagne, le Pays Basque, le Bordelais, le Ferré.
Ton juron préféré ?
Île de pute.
Ah, j'adore quand tu dis ça. Île de pute. Tu peux nous préciser un petit peu ?
Île de pute, c'est du Béarnais pur sucre.
Je me doutais bien, il y avait quelque chose.
Il y a un artiste béarnais qui s'appelle Coudouille, qui est amateur, et qui est spécialisé dans le île de pute. Il a écrit un sketch où il n'y a que des îles de pute. Donc toutes ces expressions sont avec ce juron.
D'accord.
Par exemple, il boit un verre de vin, il dit « Hum, île de pute !»
C'est un très, très, très beau juron.
Voilà, un très beau juron.
Dans ce bouquin, quelle est ta phrase préférée ? Celle où tu te dis, punaise, elle était bonne, celle-là.
Je ne la dirai pas, parce que ça révélerait la fin du bouquin.
D'accord. Dans La mer à tout son temps, évidemment, on vient de parler du poker. Toi, quel est ton dernier coup de poker ?
Il y a bien longtemps que je n'ai pas joué au poker. Je préserve ma famille. Non. J'ai des souvenirs de grands coups de poker, celui que j'ai narré tout à l'heure.
Ton dernier coup de gueule, alors ?
Mon dernier coup de gueule, on est entre amis, ici.
Oui, oui, ça ne sortira pas de Bordeaux.
Je l'ai poussé contre les gens qui n'ont pas vu que le monde changeait autour d'eux et contre les gens qui n'ont pas foutu un candidat à la porte. Voilà. Je suis franc.
Ton dernier coup de fil ?
C'est toi. Tu m'as dit, je suis devant la porte où je me gare.
Ah oui. Ton dernier coup de rouge, alors ?
Alors, mon dernier coup de rouge, au coup de rouge sérieux.
Sérieux, bah oui. Oui.
C'est avec les membres du club œnologique du Barreau, il y a quelques jours, un Léoville Barton 2005.
Respect.
Sublime.
Ah ouais, respect. Casanova est ton héros récurrent. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a de casobon dans Casanova.
Ouais, bien sûr, il y a beaucoup de casobon, mais il n'y a pas que casobon. Il y a beaucoup d'avocats qui sont des amis intimes, que j'apprécie beaucoup, qui ont un grand talent, qui sont parmi les meilleurs. Et j'épouse à peu près toutes ces formes-là. Je représente un peu tout le monde avec Casanova.
D'accord. On fait court et je te pose des questions simples. Si tu étais, et tu me donnes une réponse assez précise, d'accord, au scalpel. Si tu étais un chiffre ?
5.
Pourquoi à chaque fois ?
Je sais pas. 5.
Pourquoi ?
Et pourquoi pas 5 ? C'est bien 5.
Si tu étais un chiffre, pourquoi ? Le 5 ?
Le 5, je trouve ça bien.
Ok, j'aime si tu étais un animal.
Alors.
Non, simple.
Un animal, je voudrais être un taureau de combat gracié pour sa bravoure.
Ah, bien.
Et je finirai mes jours en Andalousie dans un pâturage.
Classe. Un personnage historique.
D'Artagnan.
Ouais. Une année.
1968.
Pourquoi ?
Parce que on est en quatrième année à ce moment-là. On vit des événements exceptionnels. Plus rien n'a jamais été comme avant. On a bouffé les vieux sur la lancée. Donc je me souviens beaucoup de cette année. Pas pour le vin. Le vin, pas terrible.
Ouais, tu parles de vin. Si tu, un parfum, tiens. Si tu étais un parfum.
Un parfum. Parfum. Je dirais... Floris 89, c'est londonien. Benign Bouquet de Penaligons.
Ah oui, quand même.
Oui. Et Neisten, qui est un parfum autrichien, à l'époque des grands transatlantiques. Tu croyais que j'allais te dire quoi, l'eau sauvage de...
Si tu étais une légende.
Beggar Vance.
Golf.
Oui, le golf. Ouais. La légende de Beggar Vance, c'est un film magnifique, avec Matt Damon.
Et enfin, si tu étais une position.
Une position...
Une position.
Stratégique.
C'est pas con.
L'échec et mat.
Bien. On vient de faire un petit tour sur la littérature, on te connaît un peu mieux, on essaie d'en savoir un petit peu plus. On va dire que c'est la fin de notre deuxième partie. Est-ce que tu pourrais nous lire un petit passage de ton livre, s'il te plaît, encore ?
Bon, alors, je vais lire le passage sur les 44 hectares.
Très bien. Très bien.
Parce que c'est le cadre du bouquin.
Oui, bien sûr.
J'ai vu tout à l'heure un digne représentant des 44 hectares, Alain Lafosse. Qui sait de quoi je parle, qui a vécu tout ce temps, va peut-être se reconnaître dans ces pages. C'est toute notre jeunesse, toute notre adolescence. Donc, mon héros se retrouve pourchassé par des gens extrêmement dangereux.
Ça pour le moins.
Des gens de deux catégories. Il y a le chinois, mais il y a un tueur en série. Et il se retrouve dans les 44 hectares. Il est propriétaire d'une cabane en bois. Et au moment où il arrive, ayant quitté Paris après cette partie de poker, il se pose la question, avec sa chinoise, une cabane au paradis, ou bien désormais une cabane au purgatoire. Ils ont marché dans les allées des 44 hectares, les allées de sa jeunesse. 440 000 mètres carrés, la superficie de l'État de Vatican pour le paradis, celle du cimetière du Père Lachaise pour le purgatoire, 176 petits arpents du bon Dieu. Il connaît toutes les maisons et leurs propriétaires. Raconter le Cap Ferré à un nouveau venu, sa presqu'île à lui n'est pas dans les livres d'histoire. Casanova a laissé depuis toujours aux savants et aux déchiffreurs exégèses la découverte des origines des lieux et des mots d'ici. Son dictionnaire amoureux se moque comme d'une guigne de savoir si Mimbo était le surnom d'un ostréiculteur du fond des âges ou s'il est vrai que Cocteau et Jean Marais aidaient sur la plage du camp américain les jeunes GI à changer de costume de bain. Sa presqu'île à lui est celle de sa propre histoire, celle de ses rencontres et de ses amours. L'histoire de cette grande bourgeoise bordelaise mûre et envoûtante qui, se moquant de la hagne laissée sur son torse par la pêche aux étrilles, l'a déniaisée avec élégance dans la jolie dune des Jacquets. L'histoire du coup de cœur de cette épouse de négociant en vin et spiritueux qui le conviait l'année de ses 19 ans à un thé au jasmin dans le trouble délicieux des fins d'après-midi caniculaires. Et alors il poursuit plus loin avec... cette région qu'il a plus que dans le cœur, qui est sa raison d'être. Pour Casanova, penser que les hommes de Wong, que foule que le fou, viennent souiller ces lieux est intolérable. Comme toujours, dans la lumière changeante du soleil couchant, la pointe le submerge de souvenirs aussi fugitifs qu'indéfectibles. Le danger a pris place là où se meuvent les bons fantômes familiers, devant ce qui fut l'épicerie de Gisèle, devenue un restaurant, devant le rancho et le ranchito vendu à une actrice, devant le garage où il dormait étudiant et dont le nom, Caillemoins, a disparu de la façade, devant la dernière maison tout au bout, là où se trouvait le comptoir d'Hortense, quand Bernadette, gamine, aidait la famille à servir les soifards. Une crainte inconnue est tapie jusque sous le grand pain qui abritait le camion taco de l'épicier Berguin, mari de Gigi. On entend encore gémir les ressorts sous les coups de boutoir de l'hirsute, besognant jusqu'à l'essieu ses amours ancillaires. On revoit même l'ombre du futur avocat et celle du jeune Benoît Barterotte, mettant à profit les violents ébats pour soustraire du véhicule tressautant les cajots de fruits ramenés des capus aux premières lueurs de l'aube. Comment supporter que les psychopathes viennent le traquer jusqu'ici, à la lisière de l'eau tourmentée qui bouffe la terre, malgré les humains qui, pour la préserver, s'agitent en tous sens? Avec ses courants inexorables, la mer prend tout son temps, l'eau dilue jusqu'aux amoureux inconditionnels de cette côte dans une sorte d'impressionnisme de l'âme. La mobilité du rivage est si grande que chaque année, des contours nouveaux apparaissent et battent en brèche le désir d'éternité. Les images mêlant le tueur évadé et le chinois le hantent, le poursuivent. Elle le presse là où revit la légende 10, là où sous ses pieds se dressait le blocos allemand qui vit maintenant par 30 mètres de fond. Elle le rejoignent là où se baignait l'ami Roland Dumas sur une plage aujourd'hui engloutie. Elle le cerne devant ce qui fut l'hôtel de Mado, ineffable mère Maquerel, maîtresse d'ouvrages pervertis du bout du monde, la Rotonde, une maison pour le repos des filles de ses bordels. Avec sa petite bande, Casanova s'excitait dans des bandaisons permanentes d'ados à la vue de ces femmes de maison close, diablesse alanguie en convalescence sous les pins. On vient donc l'inquiéter jusqu'ici, on vient le martyriser dans sa chère presqu'île qui combat pour sa survie dans les nuits lugubres des tempêtes d'hiver, on vient lui nuire en un lieu où le chapardeur de légumes, devenu le ferré capien le plus célèbre, garde la pointe fière et debout, en déversant dans les flots des tonnes de pierres et de déblés, comme on répand des antibiotiques sur les bactéries. Ici est sa terre, un enchaînement de circonstances en a fait le siège de terribles tourments. Vous avez une arme chez vous? La question de Fan le tire de son rêve. Non, juste un maquila, une canne basque qui cache un petit pieu.
Merci Bernard. Alors, dernière partie de cette rencontre, on est entre nous, en toute franchise. Évidemment, quelques questions. Prêt ? On est parti. Qu'as-tu dans tes poches ? Alors, des clés ?
J'ai un porte-bonheur. Une vis.
Une vis ?
Des coquillages. Je les ramasse à l'océan. J'en ai des vases entiers. J'ai un portable. J'ai un laguiole, modèle Eddie Mitchell, avec les bijoux indiens.
Est-ce qu'on t'a déjà confondu avec quelqu'un ?
Oui. Alors là, je réponds tout de suite. On m'a confondu souvent, et mon frère de lait, avec Benoît Ducossadaire. On m'a dit au téléphone, vous avez la même voix que votre frère. Mais vous êtes l'aîné ou vous êtes le cadet? Mais la plus belle histoire, un jour, Benoît plaide à Paris et il rencontre un de nos amis qui fête un anniversaire de mariage et qui l'invite chez Rasputin. Ils ont une copine avec eux. Et cette copine est conquise par Benoît. Et quand il s'en va, elle dit à ses amis, qu'est-ce qu'il est sympa. Quand je vais dire à mon mari que j'ai passé la soirée avec Casaubon.
Énorme. Que pourrais-tu dire de négatif à ton sujet ?
Mon groupe sanguin.
Le compliment que tu estimes mérité ?
Fidèle en amitié.
La critique qui t'a le plus touché ?
comme tous les Bordelais, même quand ils prennent des cours de diction, j'ai du mal à dire Léo. Je dis dose, je dis rose, je dis pose. Et ça, c'est imperceptible, mais pour un Parisien, par exemple, c'est très révélateur. Et la critique qui m'a le plus touché, c'est le bâtonnier Brouillot, qui était la distinction fait homme, quand j'étais premier secrétaire de la conférence, qui m'a dit « Monsieur le premier secrétaire, faites attention à vos hauts. » Je m'en souviens comme si c'était hier.
Un petit peu de fiction. On est à Petit Piquet, ça c'est la réalité. Tu pars acheter le pain le matin, tu croises un extraterrestre. Comment tu te présentes ?
Je me présente à l'extraterrestre ?
Oui, tu te présentes à l'extraterrestre. Le mec, il dit, t'es qui ? Enfin, là, je traduis.
Alors, je vais acheter mon pain à Petit Piquet.
Tu vas acheter ton pain à Petit Piquet ?
C'est pas loin de chez moi, je passe par la forêt.
Je vois.
Je vais chez Patachou.
Ouais.
Et je tombe sur un extraterrestre.
Yes.
C'est Joël Dupuche.
Bon, imaginons, à part Joël, un vrai extraterrestre.
Un vrai ?
Un vrai.
Je l'étrangle et je lui dis « Hasta la vista, baby ».
Ah bien.
Comme dans Terminator.
Si tu étais une star le temps d'une journée, tu serais qui ?
Je serais rédacteur en chef au Figaro.
Il est con. Que ferais-tu si tu étais invisible une journée ?
À part se cacher dans la salle de bain de Jennifer Lopez, j'irai à la cité administrative et je botterai le cul de tout le monde dans les couloirs. Je vois la scène.
Je te signe un chèque en blanc, un montant illimité. Qu'est-ce que tu en fais ?
Je te dénonce.
Qu'est-ce que t'es con ? Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose ?
Est-ce que tu n'as pas soif ?
Celle que l'on t'a trop posée, à chaque fois.
Mais où allez-vous chercher tout ça ?
Paris est bientôt à 2 heures de Bordeaux. C'est bien, je serai là plus souvent. Bonne ou mauvaise nouvelle ?
Bonne nouvelle. Beaucoup de lecteurs en plus.
Je voudrais juste que tu finisses cette phrase, parce que je le fais à chaque fois. Fred, cette rencontre avec toi était sympa, mais...
Mais toi qui connais bien mes amis, tu dois t'imaginer qu'ils ont soif.
C'est assez juste. Donc, sincèrement, je vous engage à acheter le livre de Bernard. Vous allez vous passer un excellent moment. Si vous ne connaissez pas les trois précédents, ben, il faut aussi les acheter et les commander. C'est un livre très, très bien écrit. On apprend plein de choses. On redécouvre, et c'était l'idée aussi de faire cette rencontre, en écoutant ce que dit Bernard, eh ben, on perçoit mieux le personnage, les personnages qui sont dans son livre. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci Bernard.
Et merci à toi, Fred.